Le GIEC a donc, vous le savez, rendu public hier à Copenhague son cinquième rapport qui doit donc servir de base à la conférence de Paris l'année prochaine. Le réchauffement de la planète qui s'accélère, les conséquences qui se font déjà sentir partout sur le globe. Le président du GIEC, Rajendra Kumar Pachauri, a déclaré depuis la capitale danoise que nous avions peu de temps avant que la possibilité de rester sous les 2 degrés ne disparaisse. Le climatologue Jean Jouzel publie justement aux éditions d'UNO le défi climatique, objectif 2 degrés. Il est notre invité cet après-midi avec le directeur de recherche Philippe Sier. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Vidard.
Et bienvenue, Jean Jouzel. Vous êtes directeur de recherche au CEA, vice-président du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et donc, dans votre livre, écrit avec la journaliste scientifique Anne Debroise, vous expliquez comment limiter le réchauffement global à 2 degrés afin de ne pas mettre tous les voyants au rouge. À vos côtés, c'est votre élève, hein, on peut le dire comme ça. Philippe Sier, qui travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes spécialiste du CO2 dans l'atmosphère et vous êtes auteur-coordinateur au GIEC. Alors que cette année 2014 va peut-être devenir l'année la plus chaude pour la Terre depuis plus de 100 ans, on va se retrouver donc dans un instant pour cette discussion autour du défi climatique avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant, franceinter.fr et les réseaux bien sûr, avec le mot-clé l'attaque. Et puis une nouvelle semaine de quiz scientifique avec Florence Porcel, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Violaine Ballet est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée par Sylvain Guilbeault.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et on commence la semaine comme tous les lundis avec vous, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On parle aujourd'hui d'un sujet trop longtemps ignoré du grand public, le divorce chez les oiseaux.
C'est ça Mathieu, c'est très sérieux. Vous le savez certainement, la plupart des espèces d'oiseaux sont monogames, c'est-à-dire qu'elles ont des petits en couple, s'en occupent à deux et ça plusieurs saisons d'affilée. Malheureusement, il y a aussi chez les oiseaux des divorces comme chez nous et il y a aussi des chercheurs que ça intéresse. Antissa Koulina, qui travaille au département de zoologie de l'université d'Oxford, a publié la semaine dernière une méta-analyse des affaires de mœurs chez 64 espèces d'oiseaux, intitulée « Conséquences positives des cas de divorce chez les oiseaux monogames ». Voilà. Elle vous explique pour commencer ce qu'est un divorce pour un ornithologue.
C'est le livre de référence « La chose avec des plumes » publié en 1996 sur les couples d'oiseaux qui a mis en place ce terme de divorce. Depuis, il s'est imposé. Je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre le divorce chez les humains et chez les oiseaux. Bien sûr, les oiseaux ne signent pas de papier. Mais plus sérieusement, chez les humains, on définit la relation même si le couple n'a pas d'enfant. Mais chez les oiseaux, le divorce définit le fait qu'entre deux saisons des amours, deux partenaires ne se retrouvent pas pour avoir des enfants alors qu'ils ont tous les deux survécu.
Alors Axel, vous avez dit que sa publication s'appelait « Conséquences positives du divorce ». Pourquoi positive alors ?
Tout simplement parce que notre chercheuse a prouvé qu'au bout d'un certain temps passé en couple, les femelles avaient parfois plus intérêt à quitter leur partenaire qu'à rester avec eux, malgré les soins qu'ils apportent à la couvée. Par exemple, elle a montré qu'une femelle qui vient de divorcer aura plus d'œufs en moyenne que ses congénères. Ça, c'est le premier avantage. Génétiquement aussi, le changement a son intérêt puisqu'il favorise le brassage. Et donc, changer de géniteur quand son compagnon est vieillissant ou que ses bébés sont faiblards, c'est aussi un avantage. Mais ce qui est le plus drôle dans l'étude, c'est que les mâles, eux, n'auraient parfaitement aucun intérêt à divorcer. Pour eux, c'est un désavantage.
Mais ça veut dire que c'est la femelle qui quitte le mâle ou pas ?
Ben voilà, c'est d'ailleurs la conclusion de l'étude. Et comme il faut toujours une bonne explication pour une bonne rupture, c'est la diminution du nombre d'œufs la saison précédente qui sert d'argument aux femelles pour ne pas revenir vers monsieur au nouveau printemps. Mais attention, madame est d'autant plus fourbe, selon Antissa, qu'elle peut contrôler le nombre d'œufs qu'elle va pondre. Écoutez-la.
C'est quelque chose qui n'est pas encore prouvé à 100%. Mais il est fort possible que les femelles puissent décider du nombre d'œufs qu'elles vont avoir avec un partenaire. À la différence des mammifères où la fertilisation est interne et où tous les petits sont conçus en même temps, chez les oiseaux, la fertilisation d'un œuf est complètement indépendante de celle d'un autre œuf. Une femelle fertilisée une fois produira un œuf et si elle est fertilisée à nouveau, elle produira un autre œuf en même temps. Donc elle peut produire autant d'œufs qu'elle le veut. Il arrive même qu'une femelle ait un compagnon régulier avec qui elle a la plupart de ses œufs et d'autres partenaires avec qui elle aura d'autres œufs qui écloront dans le même nid.
C'est ce qu'on pourrait appeler mettre intelligemment tous ses œufs dans le même panier.
Voilà, belle publication en tout cas, très récente, Axel. Et la traduction était brillamment assurée par notre réalisatrice Violaine Ballet, je tenais à le signaler cet après-midi. Alors, les femelles qui divorcent, mais les oiseaux qui changent aussi de migration, c'est ce qu'on va voir, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Ce sera le sujet, le dossier de la tête au carré dans un instant. Merci Axel, à lundi.
Bonne émission.
Et c'est Led Zeppelin pour bien commencer la semaine de Tête au Carré.
La Tête Carrée. Sur France Inter.
Le réchauffement de la planète s'accélère. Les experts du GIEC réunis à Copenhague la semaine dernière, donc jusqu'à hier, ont tiré la sonnette d'alarme selon les scientifiques. Il est encore possible, malgré tout, de limiter l'élévation de la température moyenne à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Mais si nous agissons sans délai pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, 2 degrés, c'est donc le défi climatique qui se pose à la planète. Pour en parler, le climatologue Jean Jouzel avec un livre, Le défi climatique chez Duno, et Philippe Sier, climatologue, directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, spécialiste du CO2 dans l'atmosphère. Toutes vos questions, elles arrivent déjà très nombreuses sur le réchauffement climatique, ses conséquences et les moyens à mettre en œuvre, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Jean Jouzel, c'est plutôt une bonne surprise pour vous, non ? Cet écho médiatique, toutes ces questions d'ailleurs qu'on reçoit là à l'instant, par rapport à ce cinquième rapport justement, où on a rien de nouveau au fond, hein ?
Oui, l'idée de ce rapport, c'est de s'appuyer. Donc, c'est un rapport de synthèse qui s'appuie sur les rapports de trois groupes de travail, l'un dédié aux aspects physiques du réchauffement climatique, l'autre aux impacts, à l'adaptation, ensuite le troisième aux solutions. Oui. Donc, l'idée, c'est pas que ce soit nouveau en contenu, mais c'est vraiment une présentation plus en perspective. Par exemple, assez intéressant de mettre les causes du réchauffement climatique et les impacts en sens, l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique dans une continuité. Ça montre bien qu'il y a une continuité entre les causes du réchauffement climatique, les impacts et les solutions à mettre en œuvre. Ouais. Donc c'est quand même très fort et c'est peut-être aussi la raison, Mathieu, pour laquelle nous avons eu beaucoup d'échos. Nous avions une conférence de presse ce matin où il y avait beaucoup de journalistes. Donc oui, c'est vrai, il y a un intérêt. C'est vrai aussi que le fait que la France organise la conférence de Paris 2015, donc sur le climat, crée un certain intérêt, je crois, supplémentaire par rapport à tout ce qui touche au réchauffement climatique.
Ouais. 2015, Paris, donc l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment le dernier délai pour s'en sortir ou pas ?
Oui. Parce que c'est là que nous devrions mettre en route, alors peut-être que l'année suivante sera encore importante, mettre en route un accord pour l'après 2020, mais aussi, si possible, prendre des mesures pour entre 2015 et 2020. Parce que si on n'en prend pas en 2015 et 2020, si on n'en réussit pas à ralentir l'augmentation des émissions de gaz carbonique, Philippe le dira mieux que moi, eh bien, il sera difficile de rester en dessous de 2 degrés.
Ouais, Philippe Sier, donc ce cinquième rapport, qu'est-ce qu'il distingue du tout premier, tiens, d'ailleurs, en 1990 ?
Je pense qu'on voit quand même que l'état de la connaissance a beaucoup changé. On sait beaucoup plus de choses. On mesure mieux aussi les incertitudes et les points qui restent à résoudre. Et je pense que ce rapport est vraiment important parce qu'il met ensemble en fait, la connaissance sur les principes de fonctionnement physique et les observations du changement du climat, ce qu'on sait des conséquences sur la biodiversité, par exemple, sur les ressources en eau, etc. Et aussi sur les solutions possibles qu'on peut déployer pour essayer de stabiliser le climat, c'est-à-dire stabiliser les CO2, c'est-à-dire réduire les émissions.
Ouais. Et quand on parle d'un rapport du GIEC, il faut dire qu'il y a des centaines de milliers, dizaines de milliers d'études, en tout cas, hein, qui sont passées au crible pour justement permettre cette synthèse.
Philippe peut témoigner. Philippe, c'est le travail. Philippe a été... responsable d'un des chapitres de ce cinquième rapport sur le cycle du carbone. Ouais. Je ne sais plus le titre exact, mais c'était... Donc, c'est vrai que Philippe peut certainement témoigner que c'est un gros travail. Moi-même, je suis membre du bureau. C'est plutôt un travail plus distant, puisque être membre du bureau, donc du groupe scientifique, c'est plutôt, espérer que tout se passe bien. Ouais. Nous, c'est d'organiser le rapport. J'étais moi-même auteur dans les précédents rapports. Mais Philippe peut témoigner certainement qu'il y a de plus en plus de publications dans tous les domaines.
Mais c'est ça,
nos problèmes.
Il y a 30 000 études. Là, pour ce cinquième rapport.
Je ne sais pas combien il y a de
Il y a 800 scientifiques qui travaillent, donc à décortiquer ces études, années, parce que c'est un boulot dingue.
Pour le seul rapport du groupe 1, je crois que nous avions eu plus de 10 000 publications
Et 55 000 commentaires. Lues,
et 54 ou 55 000 commentaires auxquels il faut répondre de manière très détaillée, très argumentée, bien sûr. C'est un bon processus.
Et beaucoup de relecteurs, hein, parce qu'il faut relire tout ça, évidemment, puisque ça doit arriver sur la table des décideurs.
C'est intéressant de reprendre un petit peu l'idée le mécanisme. Donc, c'est effectivement le rôle du bureau, notre premier travail. D'abord, il faut dire simplement la mission du GIEC en disant ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas, il ne fait pas de recommandations aux décideurs politiques, il ne fait pas de recommandations aux scientifiques. L'idée, c'est simplement de faire un diagnostic avec l'espoir que ce diagnostic scientifique servira de base pour, par exemple, disons, fournir aux politiques les
c'est
éléments.
C'est l'état des connaissances,
voilà.
Au fond. Hein.
Et donc, pour faire ça, eh bien, c'est organisé en trois groupes, nous n'allons pas le répéter, mais donc, le premier rôle du bureau, c'est de sélectionner les auteurs. Et une des forces du GIEC, c'est que, par exemple, dans le groupe scientifique dans lequel nous sommes tous les deux, eh bien, on a eu 1000 candidatures pour un peu plus de 200 auteurs. Ça montre, cette compétition est, je crois, à l'origine largement de la qualité des rapports du GIEC, parce que ce sont les meilleurs dans leur discipline qui sont présents et qui travaillent au rapport. Ensuite, il y a 4 séances de travail et puis, 3 étages, c'est-à-dire à partir du gros rapport, dans notre cas 1500 pages, 14 chapitres, on fait un résumé technique et un résumé pour décideurs qui est arrivé, alors dans notre cas à Stockholm, devant les représentants de gouvernement pour adoption. Ouais.
Voilà, donc c'est important de réexpliquer la méthodologie parce que c'est là qu'on s'aperçoit le nombre de gens qui travaillent derrière ces rapports du GIEC. Et c'est pas seulement comme ça un petit groupe de scientifiques qui décide de faire la pluie et le beau temps. Un résumé pour les décideurs qui a été voté justement phrase par phrase pour les délégations
adopté,
gouvernement.
Adopté, pas voté.
Adopté, pardon. Ma langue a fourché. Adopté.
À l'unanimité, justement, c'est ce qui en fait la force.
Mais ça donne une valeur politique à ce texte, justement.
Oui, je crois, de façon très claire. C'est une adoption au sens fort, c'est ce que je dis souvent. C'est une adoption, effectivement, ce sont les représentants des gouvernements qui l'adoptent. Ils ne peuvent pas changer le contenu, ils peuvent changer un peu la forme. Mais le fait, effectivement, une fois qu'il est adopté à l'unanimité, eh bien, ils l'emportent d'une certaine façon avec eux aux négociations climat. Oui. C'est notre rêve, nous, scientifiques, qu'ils soient importés. Et on n'a jamais vu à une négociation climat un pays qui ait adopté le rapport du GIEC et en remettre en cause, y compris l'Arabie Saoudite et tout ça. Ils ne remettent jamais en cause ce qu'ils ont adopté. Et c'est très fort, c'est-à-dire que, disons, les conférences climat, eh bien, on ne rediscute pas du rapport du GIEC. C'est le socle de base.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric qui nous envoie ce petit message ? Le mot certitude me dérange toujours quand on parle de prévision dans le domaine scientifique. La nature est imprévisible sans nier l'action humaine, dit Frédéric sur le réchauffement. On évoque absolument jamais la possibilité d'un retournement brutal de la situation par une éruption volcanique majeure qui pourrait faire chuter la température mondiale. Pourquoi est-ce par crainte de démobiliser les responsables politiques que cet aspect totalement imprévisible est occulté ?
Le
GIEC fait quand même très attention aux certitudes et aux incertitudes. Et je pense annonce clairement la couleur quand les choses ne sont pas connues. Il y a toujours des phrases qui expliquent très clairement ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas dans tous les domaines qui traitent du changement climatique. Et les volcans sont bien sûr traités.
Alors de quelle façon on en parle ?
Les volcans, ce sont des refroidissements courts.
Y compris, il y a une phrase très claire qui dit on va vers ce réchauffement, sauf s'il y avait un volcan majeur ou bien un changement. On dit clairement s'il y avait un changement important de l'activité solaire. Donc ça, c'est spécifiquement écrit, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette question, c'est spécifiquement écrit dans le rapport de synthèse.
Donc tous les scénarios sont étudiés au fond ?
Oui, cette possibilité,
toutes les probabilités sont évoquées.
Philippe a raison, on traite aussi également beaucoup les incertitudes, mais j'aime aussi dire qu'on a des certitudes, qu'on a la certitude que le réchauffement est là, on a la certitude que, disons, l'augmentation de l'effet de serre, c'est dû aux activités humaines et que si on continue, eh bien, le climat se réchauffera, même si on ne connaît pas, on l'admet les détails. Exactement.
Marion sur Twitter nous dit ceci, le réchauffement climatique est déjà entré en autocatalyse, n'est-il pas trop tard pour agir et l'arrêter, Philippe Sier ?
Alors c'est sûr que, en partie, parce que les gaz à effet de serre ont une longue durée de vie dans l'atmosphère, surtout le CO2, à partir des émissions qui sont déjà derrière nous, ça va conduire à un certain réchauffement dans les prochaines décennies. Maintenant, je ne pense pas que les jeux soient faits, c'est-à-dire que la période qui va être vraiment déterminante pour savoir si on ira vers un climat qui sera... avec une température plus élevée que 2 degrés ou avec réchauffement plus élevé que 2 degrés.
C'est aujourd'hui, c'est maintenant.
C'est en fait, je dirais, les 10 prochaines années qui vont
donc c'est ce qu'on fait dès maintenant, évidemment. Jean Jouzel, sur l'inertie du système climatique, parce que c'est un paramètre extrêmement important,
alors, ça dépend quel paramètre climatique on regarde. Il y a une inertie déjà pour la température, parce qu'il faut que l'océan de surface se mette en équilibre avec l'atmosphère. C'est quelques dizaines d'années. Mais là où c'est le plus terrible, c'est pour l'élévation du niveau de la mer. Parce que là, c'est tout l'océan, c'est 3 km, ils doivent se mettre d'une certaine façon en équilibre. Et donc ça prend du temps. Là, l'inertie, c'est des centaines d'années. Oui. Et une fois que l'élévation du niveau de la mer s'est mise en route, on ne pourra pas l'arrêter. Et ça, c'est un des vrais problèmes du réchauffement climatique, parce qu'on peut aller vers des élévations du niveau de la mer de quelques mètres à horizon et, disons, dans quelques siècles. Mais surtout, il est clairement dit dans le rapport que si le réchauffement climatique se maintenait au-dessus de 2-3 degrés, enfin quelques degrés pendant un millénaire, eh bien le Groenland serait mis à mal, par exemple. Et là, c'est plutôt 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Il vaut mieux pas y penser.
Ouais. Même si on arrêtait aujourd'hui toute émission, imaginons vraiment dans un rêve absolu de gaz à effet de serre, de toute façon, la machine est dans un cycle
pour la température de quelques dixièmes de degrés et pour l'élévation du niveau de la mer, pratiquement toujours 10, 20, 30, 40 centimètres supplémentaires de toute façon.
Ouais. Rémi nous dit ceci, tout le monde est d'accord pour prendre des mesures contre les symptômes du réchauffement climatique, mais qui osera s'en prendre à ses causes? Les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi importantes, mais personne ne voit qu'elles sont directement proportionnellement dues à la population humaine. Nous n'aurions pas besoin des excès de l'agriculture intensive si nous n'étions pas 7 milliards. La question de la démographie est très souvent abordée dans les messages des auditeurs. Philippe Sieyès, qu'est-ce que vous souhaitez leur répondre?
Alors, c'est sûr que l'augmentation de la population, ça crée une augmentation de la pression sur les ressources agricoles, comme le disait l'auditeur. Aussi l'augmentation de la quantité totale d'énergie qu'il faut trouver. Et comme malheureusement, on n'a pas beaucoup trouvé mieux pour le moment que de l'énergie à base de carbone fossile, ça conduit à une augmentation des émissions de CO2. Maintenant, on a aussi des pays très peuplés qui arrivent quand même à émettre beaucoup moins par habitant que d'autres pays. Donc il y a aussi des efforts à faire qui peuvent, malgré l'augmentation de la population, conduire à des émissions qui peuvent être raisonnables.
Ouais. Au sujet de l'agriculture, justement, oui, Jean-Joselle, hein,
un des points que souligner, oui, effectivement, un réchauffement important de l'ordre de 4 degrés, comme on pourrait craindre si nous ne faisions rien d'ici la fin du siècle, risque de, disons, d'abaisser, de réduire la productivité agricole. Donc ça s'ajoute au problème, c'est-à-dire que la démographie, non seulement produirait, enfin une démographie, disons, plus importante, on parle maintenant plutôt de 10, voire 12 milliards à horizon 2050, c'est peut-être plus d'énergie, comme a dit Philippe, mais ceci plus de difficultés à nourrir la planète parce que la productivité agricole risque de diminuer en cas de réchauffement climatique important.
Lorsque Rémi nous écrit, est-ce qu'on va finir par sortir du déni sur la question de la surpopulation? Lorsque Viron nous envoie ce message en disant la démographie, est-ce qu'il n'y a pas une urgence écologique de repenser la démographie? La Terre, est-ce qu'elle a atteint ses limites d'occupation de l'espace aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre?
Peut-être un peu et pas que pour ça. Beaucoup de ressources sont mises à mal dans d'autres domaines également. Et donc effectivement, c'est une question que l'on doit se poser et qui en tout cas, enfin, on la traite dans le cas du réchauffement climatique, on la prend en considération, mais ça amène effectivement à réfléchir.
Jean Jouzel, la communauté internationale a donc fixé cet objectif de maintenir la hausse des températures sous le seuil de 2 degrés. C'est le sous-titre de votre livre Le défi climatique, ce qui suppose quand même de réduire les gaz à effet de serre de 40, voire à 70% maintenant jusqu'en 2050. Le temps presse et le défi est inouï quand même.
Oui, c'est un défi inouï. Donc c'est vrai qu'on parle d'effet de serre à long terme, mais... Donc c'est vraiment le CO2 qui est le principal coupable. C'est lui, il y a cette relation linéaire entre les quantités de CO2 qu'on émet et puis le réchauffement à stabilisation, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans les conventions climat. Et là, la situation est terrible. On a émis pratiquement les deux tiers de ce que l'on a le droit d'émettre. Ouais. Je pense que Philippe commentera plus que moi, mais c'est très clair.
Ouais, Philippe Sieyès, pour garder le cap des 2 degrés, les émissions devraient même disparaître totalement d'ici 2100.
À la fin, oui, mais surtout, comme le disait Jean Jouzel, on a déjà émis le tiers du cumul total de carbone fossile qu'on peut rejeter dans l'atmosphère. Il nous reste en gros 1000 milliards de tonnes de carbone, de CO2 à émettre. Ça paraît beaucoup, 1000 milliards de tonnes de CO2, mais comme chaque année, on en émet à peu près 36 à 40, ça veut dire que si on continue au rythme actuel, d'ici 30 ans, on aura utilisé finalement tout le quota de CO2 qui arrive à réchauffement à 2 degrés. Donc il faut vraiment, dans les 30 prochaines années, faire baisser la tendance, réduire les émissions et à la fin, j'espère, à la fin du siècle, les amener à zéro.
Ouais. Et vous y croyez vraiment?
On peut penser qu'il est possible de pouvoir stabiliser ou réduire les émissions parce que certains pays ou certains groupes de pays l'ont déjà fait dans le passé, simplement sur des périodes relativement courtes, de l'ordre de quelques années. Ouais. Là, l'effort, c'est vraiment de le faire,
mais en maintenant le cap,
à l'échelle planétaire.
Et en maintenant le cap toujours.
Et en maintenant le cap, c'est-à-dire pas seulement sur quelques années, mais sur plusieurs dizaines d'années à la suite.
J'ai encore une question pour Philippe. Tu reviens de Chine, alors. Fois, tu donnes une opinion optimisme de ce qui se passe en Chine dans les provinces. Alors, est-ce que tu peux confirmer par rapport
à la Chine?
La Chine qui a une position très particulière dans l'émission des gaz à effet de serre aujourd'hui sur Terre.
Hein. Oui, en plus, cette année, la Chine, qui avait dépassé déjà les États-Unis et l'Europe comme le premier émetteur mondial, qui émet à peu près 28% du total des émissions de tous les pays, Symboliquement, lorsqu'on divise les émissions par le nombre d'habitants, par habitant, aujourd'hui, avec 7,2 tonnes de CO2 par habitant par an, la Chine est passée au-dessus de l'Europe. Ça veut dire que ils ont vraiment aussi une responsabilité et un rôle à jouer important pour réduire les émissions. Je pense qu'ils s'en rendent compte.
Alors, comment ils en discutent, justement, quand vous allez les rencontrer comme là récemment, puisque vous rentrez tout juste? Comment on aborde cette question là-bas?
Je pense que...
Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Chine.
Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est, je crois, le pays du monde qui investit le plus dans la recherche sur les énergies renouvelables.
Dans les villes durables.
Les villes durables bas carbone. Mais en même temps, il faut aussi, pour eux en particulier, conserver, je dirais, le développement économique. Donc c'est un peu ça l'équation qui se pose pour la Chine, qui se voit pour les gaz à effet de serre, mais aussi pour la pollution. Comment se développer sans vivre dans un air pollué, c'est évidemment une équation qui est très importante.
Ouais. Et ils sont en route justement pour essayer d'atteindre les objectifs de...
Oui, pour le moment.
Pour abaisser les émissions ou pas?
Bah, ils en parlent quand même. Enfin, non, baisser leur augmentation, non, réduire l'augmentation de leurs émissions. Mais à un moment, il faudrait qu'ils atteignent un pic. Et toute l'idée, c'est de savoir quand sera ce pic pour la Chine. Ça détermine largement savoir quand sera le pic, disons, d'émissions au niveau mondial. Et donc, oui, enfin, je pense qu'ils... Bon, par exemple, disons, s'il y a une conférence à Paris qui est importante, si on parle d'accord pour l'après 2020, eh bien, à Durban, la conférence de climat il y a 2 ans, c'est à partir du moment où la Chine a dit on est d'accord pour discuter d'un accord possible après 2020 que les États-Unis ont dit nous aussi, alors qu'ils ne le voulaient pas au départ. Ils ne voulaient pas lancer les discussions pour l'après 2020. Donc la Chine a quand même un rôle moteur. Et je pense que dans la conférence de Paris, le jeu consiste à faire adhérer la Chine et les États-Unis, 40% des émissions, 10% pour l'Europe. Sans cela, on aura du mal à emmener la machine. Et c'est quand même un peu le rôle de la France d'essayer d'entraîner tous ces pays.
Voilà pour cette conférence donc l'année prochaine à Paris. Vos questions, bien sûr, vous poursuivez sur franceinter.fr, le hashtag l'attaque. Pour les réseaux sociaux, on retrouve Jean Jouzel et Philippe Sier dans un instant pour évoquer donc cet objectif 2 degrés et relever ce défi climatique. Juste après, Arthur H.
Ah, très bien.
Juste devant moi, pas à côté. Of the moon on the dark side of the moon, je dû m'écarter des chemins tracés. On the dark side of
Voilà le défi climatique, objectif 2 degrés. Jean Jouzel, Philippe Sieyès, climatologue, tous les deux sont nos invités cet après-midi. Beaucoup de messages sur franceinter.fr, beaucoup de messages qui tombent aussi sur votre portable, Jean Jouzel. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très sollicité là depuis,
c'est vrai.
Depuis Copenhague. Et puis Philippe Sieyès, vous n'étiez pas d'ailleurs hein, au Danemark, vous étiez
non,
en Chine.
Non, il n'a pas voulu venir. Ça, j'insisterai pas, mais bon.
Pourquoi est-ce que vous avez refusé? Vous avez boudé cette année? Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Sieyès?
Non, mais on avait déjà travaillé beaucoup pour la sortie du premier rapport du GIEC et je pense que c'est important.
Beaucoup, ça veut dire plusieurs années. Hein.
Plusieurs années de suite, voilà. Avec tous nos collègues. Et donc,
vous avez laissé bosser les copains.
On a gentiment tendu la main, tendu le relais à d'autres collègues qui ont travaillé sur ce rapport de synthèse.
Jean Jouzel, le mois de septembre a enregistré un record de chaleur planétaire. Ouais. 2014 sera peut-être même une année record. Les impacts, donc là, se font sentir très concrètement, hein, sur des échelles courtes.
Oui, en France, c'est vrai, mais on a ce sentiment, mais c'est surtout au niveau mondial, vous l'avez dit. En fait, on est à quatrième mois record, hein, mai, juin. Août et septembre ont été des mois records par rapport à depuis 150 ans. Et il y a de fortes chances pour que 2014 soit l'année la plus chaude qu'on a jamais connue. Parce que pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait vraiment que les trois derniers mois ne soient pas, disons, soient vraiment très médiocres ou plutôt froids. Voilà ce qui a peu de chances d'être le cas. J'y mettrais presque ma main au feu, mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais je
Philippe
pense
Sieyès,
qu'on s'oriente vers l'année 2014 très chaude.
Si on a un Niño par-dessus tout qui arrive.
Alors en 2015, en général, les années El Niño, si on a un fort El Niño en 2015, ça s'accompagnera aussi par...
Vous nous rappelez les conséquences, enfin le principe en tout cas d'El Niño, rapidement.
C'est changement en fait de la redistribution des températures d'abord dans l'océan, et puis ensuite ça se transmet à toute l'atmosphère tropicale. Ça se traduit par des sécheresses sur la plupart des territoires des continents tropicaux, avec un impact aussi sur la végétation, qui perd du carbone, qui en absorbe moins pendant ces années-là.
Jean Jouzel, c'est un message pour vous de Jean-Sébastien. Est-ce que vous n'êtes pas démoralisé, comme moi, dit-il, quand vous entendez que les États-Unis se ruent sur les gaz et les pétroles de schiste en ce moment?
Bon, Mathieu Vidard ne va pas aimer que je donne quelques chiffres, mais ça vaut le coup. Vous retenez que Philippe nous a dit qu'on n'a plus le droit qu'à 1000, on n'a plus le droit, en gros, si on ne veut pas dépasser à des émissions et qui est à 2000 gigatonnes, alors milliards de tonnes de CO2. Alors, les réserves actuelles, c'est plus de 5000 milliards. Quand on parle de réserves, c'est ce qui est facilement accessible. Mmh. Il y a 10 ans, c'était deux fois moins. C'est-à-dire que dans ces réserves de combustibles fossiles, la moitié, exactement la moitié, ou même un peu plus, sont liées au gaz non conventionnel et au pétrole de schiste. Ça montre le problème. Ça a complètement changé la vision. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser plus de 20% du combustible, des réserves de combustible. Il y a 10 ans, vous aurez dit plutôt 40 ou 50%. Et ça change la donne. Bien sûr, en dehors de la possibilité de piéger, de stocker le gaz carbonique. Hein, mais voilà, donc c'est vrai que je suis intimement, je ne suis pas favorable au gaz de schiste, au pétrole non conventionnel pour cette raison. Parce que ça rend beaucoup plus difficile. J'étais plus optimiste il y a une dizaine d'années avant la mise, disons, en route de ces pétrole et gaz non conventionnels, pour répondre clairement à votre question.
Philippe Sieyès, sur la question des gaz de schiste.
Oui, c'est un petit peu... on a souvent dit que c'était the last fix of the oil addict, c'est-à-dire un
in
peu...
In French, please.
La dernière issue pour celui qui avait vraiment besoin d'énergie fossile. Et c'est vrai que c'est un petit peu préoccupant de voir cette course en avant pour toujours chercher... plus ou des formes différentes de carbone fossile, qui empêchent de réfléchir un petit peu à des transitions qui permettraient de réduire les émissions.
Et qui fait aussi que le renouvelable ou les autres énergies ne sont pas compétitives, disons, d'un point de vue coût.
Est-ce qu'on parle du permafrost dans ce cinquième rapport, Jean Jouzel?
Oui, bien sûr, on parle du permafrost. On y donne quelques chiffres. Justement, par rapport, c'est plutôt entre 50 et 250 milliards de tonnes. Enfin, pas de carbone, donc c'est plutôt 500 milliards de tonnes de CO2 additionnel par rapport. Donc, ça nous... si le permafrost, mais Philippe va le dire, c'est le spécialiste, ouais. ça mangerait déjà la moitié de notre droit à émettre.
Alors, Philippe Sier, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces sols gelés dans les régions arctiques, par exemple, qu'on présente aussi comme des bombes à retardement, puisqu'en en dégelant, en fait, hein, ces sols donc libèrent des grandes quantités de carbone, de méthane, avec des effets dévastateurs, et tout ça en très grande quantité. Quand on voit la vitesse à laquelle, justement, l'Arctique est en train de fondre, qu'est-ce que vous prévoyez à moyen terme ?
Oui, ben alors, ce qui est sûr, c'est que c'est les sols arctiques nous ont... En fait, c'est un legs de dernier âge glaciaire. Et ils contiennent d'énormes quantités de carbone, à peu près deux fois la masse de l'atmosphère.
Donc ça emprisonne ce carbone ?
Pour l'instant, ce carbone, il est gelé, il est prisonnier. Et ce qui est certain, c'est que quand le climat va se réchauffer, même dans dans les scénarios de réchauffement relativement peu intensifs, il y a une grande partie de ce permafrost qui va disparaître.
Ouais.
Et ce qui est un peu moins bien compris, c'est est-ce que tout le carbone qu'il contient va être libéré sous forme de méthane ou de CO2 et va accélérer le changement climatique en créant encore plus d'effets de serre, ou est-ce que ça va être seulement une petite partie ? Mais ce qui est sûr, c'est que ça...
Il y a une réponse à cette question-là déjà ou pas ?
Peu de carbone du permafrost qui est décomposé, quand le permafrost se retire, c'est sûr que ça va causer une accélération de l'augmentation du CO2 dans le futur.
Ouais, donc on craint beaucoup ce relargage au fond de ce carbone-là qui est emprisonné. Ouais. Est-ce que déjà ça commence précisément avec la fonte à être relargué ou pas ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que les émissions de méthane répondent fortement à la température. Une année où il fait très chaud en Arctique, on voit une augmentation assez sensible des émissions de méthane. Le carbone gelé qui fond, ce n'est pas quelque chose qui se déclenche en un an. Il faut peut-être attendre quelques dizaines d'années. Mais ensuite, c'est inexorable. C'est un peu comme le niveau des mers. Une fois que ça se produit, les microbes ils vont manger tout le carbone qui est dégelé pour eux. Et ça va émettre du CO2 dans l'atmosphère, bien au-delà même de la fin du siècle.
Ouais. On modélise, j'imagine, cette fonte du permafrost aujourd'hui.
On la modélise, mais surtout...
Qu'est-ce qu'on voit alors exactement ?
On a aussi besoin d'expériences sur le terrain. Ouais. Il y a des gens qui vont réchauffer des blocs de permafrost et qui vont regarder à quelle vitesse ils se décomposent et s'ils perdent ou pas leur CO2.
Et alors, qu'est-ce qu'on observe ?
Et en général, dans les régions où le carbone du permafrost se dégèle, la plupart du temps, on observe en fait un fort relargage de CO2. Ouais. C'est du carbone qui est prêt à être décomposé. C'est des racines qui ont été presque congelées vivantes depuis l'ère des mammouths. Et il suffit d'augmenter la température pour que les décomposeurs et les bactéries puissent... les manger, faire leur fête dessus et émettre du CO2 dans l'atmosphère.
Donc c'est quand même très inquiétant ce phénomène.
Alors c'est un phénomène qui est inquiétant, peut-être pas pour les prochaines années, mais c'est aussi un phénomène qui nous dit qu'il faut ne pas dépasser une certaine quantité de changement climatique. Parce que si le climat se réchauffe trop ou trop fort, à ce moment-là on aura beaucoup plus de carbone du permafrost qui sortira vers l'atmosphère. Si on reste dans la limite de 2 degrés, ce risque est beaucoup plus faible.
Jean Jouzel.
Oui, c'est un vrai problème. Enfin, comme Philippe, on travaille aussi en Sibérie. Je vais à Ekaterinbourg très régulièrement et c'est leur souci principal. Il y a des études, effectivement, sur le permafrost. Il y a beaucoup de collaborations aussi. Philippe a aussi eu des collaborateurs russes et c'est quand même leur inquiétude. On a du mal à faire une conférence sur le changement climatique à Ekaterinbourg. Effectivement, il y a quand même l'écoute. Donc, c'est quand même au début de la Sibérie. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème aussi pour leurs infrastructures, non seulement pour dans ce cas-là, certaines villes sont effectivement la fonte et comme vous l'avez dit, le réchauffement en Arctique dans ces régions est deux fois plus rapide qu'en moyenne globale et c'est un vrai problème aussi pour les infrastructures, les villes et aussi par exemple ne serait-ce que le transport des transports en général, les routes, tout ça sont largement mis à mal.
Les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi importantes. Les niveaux atteints sont les plus élevés depuis 800 000 ans. Ça, c'est un autre chiffre choc qui marque évidemment beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans des ordres de grandeur aussi importants, aussi élevés.
Alors, Philippe était glaciologue, mais pendant simplement 5 ans. D'accord. Oui, c'est quand même le grand apport des glaces polaires, en particulier des forages de l'Antarctique.
Et on peut citer
Claude Lorius, Dominique Reynaud, Jérôme Chaplat, Jean-Marc Barnola. C'est vraiment cet apport, disons toutes les. Enfin bon, j'ai eu la chance de participer à ça.
Voilà, on a une mémoire aussi dans la glace.
Donc on a 800 000 ans d'archives et enfin de notre côté, on a plutôt étudié les aspects. La reconstitution du climat, nos collègues, celle du gaz carbonique, et on montre effectivement cette montée rapide depuis 200 ans et puis des valeurs vraiment 40%, un changement de 40% par rapport aux valeurs hautes et pratiquement par rapport à une période glaciaire, c'est deux fois plus important maintenant qu'à la dernière période glaciaire et durant toutes les périodes glaciaires. C'est vraiment très marquant quand on montre ce graphique.
Donc ça, c'est une pièce à conviction vraiment indiscutable.
Eh bien, oui, en tout cas, c'est clair que l'activité humaine est là. Al Gore s'est emparé dès dans les années 90, dans son premier livre, et par la suite d'ailleurs, des premières courbes, donc des forages de Vostok et maintenant de Domsey en Antarctique. Et c'est très parlant. Et c'est vrai que j'étais assez fier que ce soit une des choses mises en avant dans le rapport de synthèse.
Rapport,
c'est vrai que c'est vraiment notre contribution collective, le dis bien, c'est pas cela.
800 000 ans.
Voilà.
On ne va pas plus loin pour l'instant, Jean-Jouzel.
Non, c'est le rêve de Jérôme Chaplace, des jeunes maintenant, de la jeune génération, mais c'est pas si simple. Oui, bien sûr, Valérie Masson-Delmotte chez nous, Jérôme Daplas, c'est leur rêve, beaucoup d'Européens, mais c'est difficile de trouver un site. J'espère qu'ils y arriveront.
Voilà, c'est ça, on n'a pas encore le site. Hein.
Non, on n'a pas encore vraiment le site. C'est d'abord la sélection du site, parce que la difficulté, c'est que la glace très vieille se trouvera dans les 200 derniers mètres où elle risque d'être mélangée. Mais il faut, je pense qu'ils ont raison, c'est un très très beau projet et j'espère qu'il aboutira.
Ouais. 800 000 ans, ça représente quelle hauteur de glace?
Là, on a dans le site, là, 3 km 200 à
3 km 200.
Voilà, et on a même plus 3 km 600 à Vostok, mais donc c'est vraiment plus 3 km de glace.
Philippe Sier, actuellement l'augmentation des émissions de CO2 donc entre 2 et 3% par an, 3,3% sur la décennie 2000-2009 et 2,3% entre 2012 et 2013. Donc il y a un ralentissement quand même.
Il y a un ralentissement de 2013 entre 2013 et 2012 et tout ce qui s'était passé sur la dernière décennie. Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour se prononcer, pour savoir si c'est le début d'une inflexion ou si c'est la conjoncture économique.
Qu'est-ce qu'on voit justement avec la crise là aujourd'hui?
Alors en Europe,
est-ce que c'est un des bons points au fond?
Pour l'Europe, les émissions diminuent à cause, je dirais, de la mauvaise situation économique. Mais
des mesures un petit peu quand même, sois pas pessimiste.
Mais les émissions en Chine ont continué à augmenter, un peu moins fort que la dernière décennie, à peu près moitié moins vite. Et ce qui nous a surpris aussi, lorsqu'on met à jour les émissions de tous les pays, là, on l'a fait pour le dernier sommet sur le climat des Nations Unies en septembre 2014, c'est que les émissions des États-Unis, qui étaient en train de diminuer progressivement depuis 5 ans, elles ont pour la première fois réaugmenté.
À cause du gaz de schiste, justement, ou pas?
À cause de l'utilisation accrue, l'appel de l'énergie fossile est très fort aux États-Unis, continue de rester très fort. Alors ça peut être le gaz de schiste, le gaz conventionnel, le pétrole,
toute forme. Et ça ne tient pas compte des fuites éventuelles de méthane liées au gaz de schiste, parce que ce bilan n'en tient pas compte.
Tout ça s'accumule, malheureusement.
De méthane possible.
Kenelius sur Twitter nous dit ceci: le réchauffement climatique diminue les dépenses de chauffage, donc de CO2. Est-ce que ça n'est pas un des paradoxes pour le GIEC?
Oui, mais ça augmente les dépenses de climatique dans beaucoup de pays, y compris peut-être en France, dans certaines régions françaises. Quand on regarde un climat plus chaud de 4 degrés, on voit des canicules à répétition dans la deuxième partie du 21e siècle, avec des fois des étés caniculaires 4-5 degrés plus chauds dans le sud-est de la France. Et là, on parlera aussi de climatisation.
Ouais, pour inciter, nous dit Antoine, à réduire, pourquoi ne pas généraliser le marché du CO2 à tous, comme le fait la France avec le compte épargne CO2?
Oui. Moi, je réponds oui.
Ça, c'est une vraie solution?
Oui, c'est une solution de donner un prix au carbone et je regrette que l'écotaxe n'ait pas été mise en œuvre. Même si je suis breton, mais je dis clairement, et j'ai été impliqué dans le Grenelle de l'environnement, je pense que c'est une bonne mesure de donner un prix au carbone et je pense qu'il fallait continuer dans cette stratégie.
Christophe nous dit sur Twitter: quel est l'impact de l'acidification des océans? Il me semble qu'on en parle moins. Pas franchement. C'est un des thèmes quand même, Philippe Sier, dont on parle beaucoup.
C'est, je dirais, un des mauvais effets du fait que l'océan absorbe du CO2. C'est quand même bien d'avoir un océan, parce que sans lui, on aurait un tiers de plus de CO2 des émissions qui resteraient dans l'atmosphère à la fin de l'année. Maintenant, le CO2, quand il rentre dans l'eau, il provoque une augmentation de l'acidité. Cette augmentation de l'acidité est encore plus forte dans l'océan Arctique. Et là, ça veut dire que certains organismes qui forment leur squelette avec de la calcite ou de l'aragonite, ils ne peuvent plus le faire, et ça d'ici 10 ans. Donc ça veut dire une disparition de certains types de plancton d'ici 10 ans. Ça, c'est très bien connu, l'acidification, parce que c'est vraiment la quantité de CO2 qui rentre dans l'eau. Ce qui est moins bien connu, c'est l'impact de l'acidification sur la vie marine, les ressources marines. Ça, c'est à travers toutes les chaînes trophiques qui sont très complexes dans l'océan. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins bien.
Oui.
À partir du signal initial de l'acidification.
Et c'est un des problèmes du futur. Là aussi, si on continue, disons, si on n'imite pas les émissions de CO2, l'acidité de l'océan pourrait avoir doublé à la fin du siècle. C'est clairement rappelé dans ce rapport.
Le paysage français, vous en parlez aussi dans votre livre, Jean-Jouzel, le défi climatique. Il est déjà modifié, au fond.
Il est déjà modifié. Je suis impliqué avec d'autres collègues de l'Institut Pierre-Simon Laplace et de Météo France et du CERFAX dans la rédaction, dans, non pas dans la coordination des rapports sur le climat de la France. Et effectivement, la France n'échappe pas au réchauffement climatique, c'est très clair.
Qu'est-ce qu'on observe qui soit par exemple,
déjà actuellement, les observations, c'est assez difficile à attribuer des observations, mais disons, on s'attend à des étés. Alors, les deux choses auxquelles on s'attend, c'est des étés beaucoup plus chauds dans le sud-est de la France, oui. Peut-être plus de sécheresse, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, et à l'inverse, sur la façade atlantique, eh bien, ces hivers relativement doux se caractérisent par des précipitations plus importantes. Quand il y a, disons, un train de dépression qui vient de l'Atlantique sur la Bretagne, c'est ce qui s'est passé cet hiver, deux fois plus de précipitations qu'une année normale à Rennes, et ce sont des conséquences alors qu'on n'attribue pas au réchauffement climatique, mais dont on peut craindre en tout cas que dans un climat avec des hivers plus doux, elle s'accentue avec des effets quand même sur les inondations dans certaines régions de rivières ou des régions côtières.
Allez Jean, je vous aide. Deux questions très rapidement, une minute pour y répondre. Jean nous dit ceci, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire, voire abolir l'élevage animal qui est responsable d'une partie non négligeable des émissions de CO2?
Oui, c'est vrai, non, surtout des émissions de méthane. Donc, c'est pas. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Les gens se posent la question. Il sera très difficile qu'on ait le même régime alimentaire pour toute la planète que celui que nous avons, nous. C'est très clair et la question est posée. Il faudrait trouver des moyens pour diminuer ces émissions de méthane. Oui.
Et puis, dernier message d'Éric, peut-être une note positive. Grâce à lui, bravo à Jean Jouzel, qui depuis 25 ans, plus même, répète avec bienveillance son message. Toutefois, n'y a-t-il pas réellement rien de positif à attendre des changements climatiques? Allez, une note positive.
Dans quelques régions, oui, eh bien. Je ne sais pas, par exemple, un automne comme les deux mois que nous avons eu là est très agréable. Je ne vais pas dire le contraire. Donc, il y a des choses. Bon, si vous tenez un bistrot, des étés caniculaires, c'est peut-être pas mal. Mais il y a quand même beaucoup plus d'effets négatifs. Il y a aussi des effets positifs sur certaines régions comme la Sibérie en termes de productivité agricole. Mais c'est vraiment très, 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 disons, mineur par rapport aux conséquences adverses du réchauffement climatique. C'est bien la conclusion du rapport du GIEC.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la tête au carré. Donc, au lendemain de ce rapport à Copenhague. Le défi climatique, c'est chez Duno, Jean Jouzel. Objectif 2 degrés avec Anne de Broise. Merci également à vous, Philippe Sier. Merci. Et j'espère à bientôt.
Merci, Mathieu Vidard.
Every Other Freckle avec Algie à l'instant sur France Inter. La semaine reprend avec de nouveaux candidats, de nouvelles questions et c'est le nouveau quiz de la Tête au Carré. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Le week-end fut bon.
Très bon, merci.
Vous nous présentez nos deux nouveaux candidats.
Mais oui, bonjour et bienvenue Christelle et Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
Christelle avec un K, hein ? C'est pas oui, comme Christophe. Voilà, Christelle, vous êtes à Saint-Ivy dans le Finistère.
C'est ça, oui.
Est-ce que c'est au bord de la mer ou pas ?
Un petit peu, à 10 minutes.
Ah, ah oui, donc vous êtes, donc oui, vous n'êtes pas loin. Et vous travaillez dans les télécommunications, ce qui est assez vague, mais bon, si on précise les choses, ça veut dire quoi exactement ?
C'est plus pour Internet. Je dépanne Internet.
D'accord. Voilà. Face à vous, donc, se trouve Christophe qui habite à Canfin en Pevelle. Est-ce que je le prononce bien ?
C'est Canfin en Pevelle.
En Pevelle, Christophe. Et c'est dans le Nord, c'est ça ?
C'est ça, c'est à une quinzaine de kilomètres de Lille.
Vous êtes commercial ?
Oui.
Dans quel domaine ? Dans quel secteur ?
Je vends tout ce qui est chirurgie en ophtalmologie.
D'accord. Et vous écoutez évidemment la Tête au Carré dans les nombreuses heures que vous passez en voiture.
Évidemment.
J'en suis sûr. Bon, cette semaine, ce sont les éditions Atlas qui sont partenaires de notre jeu, Florence.
Et oui, nous offrirons au gagnant ou à la gagnante le grand Atlas de l'astronomie préfacé par Hubert Reeves. Bonne chance à tous les deux.
Bonne chance Christelle et Christophe. On démarre avec la question d'actualité, si vous êtes prêts.
On est prêts.
Cette question était dans l'actualité la semaine dernière avec un Américain qui s'appelle Alan Eustace qui a battu le record du saut le plus haut du monde établi auparavant par un parachutiste autrichien en octobre 2012. Comment s'appelait ce sauteur autrichien ?
Félix Baumgartner,
Christophe, qu'on connaît beaucoup mieux que Alan Eustace, qui a pourtant battu son record, Florence.
Mais hein. Oui, le 24 octobre dernier, hein, et c'est pas du tout un sportif de l'extrême, Alan Eustace, puisqu'il est vice-président de Google. Et alors, à 57 ans, il a sauté d'une altitude de 41,4 km, contrairement à Félix Baumgartner.
Qui avait sauté à combien, Christophe ? Est-ce que vous en souvenez ?
Est-ce que vous savez ?
Ou non, c'était 38 km.
Bravo,
ouais, 38,9 km, exactement. Bon, alors cela dit, Alan Eustace n'a pas battu le record de vitesse, qui est de 1357 km/h, voilà, pour Félix Baumgartner.
Mais qui a été très peu médiatisé, c'est étonnant, très parce peu. Qu'avec Baumgartner, ouais, on avait vraiment vu ça avec des images en temps réel. Et là, il a été d'une discrétion, monsieur Google.
Parce qu'il n'était pas sponsorisé, je crois, c'est ça.
Bah, il aurait pu l'être par Google, quand même.
Il aurait pu, mais il a refusé.
Bon, en tout cas, ça fait 10 points pour vous, Christophe. Bravo. Christelle, ne soyez pas impressionnée par Christophe, car vous pouvez évidemment reprendre l'avantage dans quelques instants avec les questions de rapidité qui sont au nombre de 7, comme tous les jours. Et si une question vous pose problème, vous pouvez nous demander de passer à la suivante. 1 minute 30, vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Oui.
Allez, on lance le chrono. Première question. Quel animal a été popularisé par un film d'horreur s'appelant Les Dents de la Mer ? Très difficile.
Le requin.
Voilà, bonne réponse de Christophe. Quelle grotte surnomme-t-on la chapelle Sixtine de l'art pariétal ?
La grotte Chauvet.
Non.
La grotte de Lascaux.
La grotte de Lascaux, Christophe. Christelle, vous aviez une chance de bien répondre, là, attention. Hein. Quel est le nom de l'ouragan qui a été particulièrement dévastateur pour la Nouvelle-Orléans en 2005 ?
Katrina.
Christelle. Laquelle des quatre forces fondamentales n'est pas inclue dans le modèle standard de la physique des particules ? Ça commence à se corser.
Le magnétisme ?
Non.
Non.
Non, non. Allez, pensez à Newton, par exemple.
La gravité ?
La gravitation ? Allez,
On le donne, oui.
On le donne, Christophe. Sur quel continent peut-on trouver la station de recherche franco-italienne Concordia ? Sur quel continent ?
Sur l'Antarctique.
Bravo, Après. Christophe. Bonne réponse. Quel est l'astre le plus lointain sur lequel un objet humain se soit posé ?
Posé, c'est Mars ?
Non, non, non,
plus
non,
loin.
Non. Plus loin, encore plus loin. On va même
Jupiter.
Vous aider. Pardon ?
Jupiter ?
Non, non. C'est un satellite d'une des planètes du système. Pardon ?
Pluton ?
Non, 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 non.
Non.
C'est un satellite de Saturne. Allez, je vous aide un petit peu.
Maillot ?
Non.
Allez, je vous pose la dernière question. Quel est le nom savant de la peur des poils ? Est-ce que vous connaissez cette phobie ? il faut le savoir.
Il faut le savoir.
La pulpophobie, non ?
Non, mais bien tenté.
Non,
non, c'était la trichophobie.
Voilà, état d'anxiété provoqué chez certaines personnes par la crainte d'avoir un duvet trop abondant et des personnes qui ont vraiment peur des poils.
Oui.
Ça existe.
Oui, ça existe, ça existe.
La trichophobie, voilà.
Voilà.
Quel est l'astre le plus lointain, Florence, sur lequel un objet humain se soit posé ?
Il s'agit de Titan. Voilà, on s'est posé sur Titan le 14 janvier 2005 et c'était une sonde européenne.
Seule lune du système solaire possédant une atmosphère,
oui. Hein,
donc satellite de Saturne. Antarctique, c'était bon pour Concordia. Et puis la gravitation, bah, on a accordé la réponse à Christophe. Il aurait fallu être un tout petit peu plus précis, mais
bon.
C'est bon. Allez, on vous accorde ces points. On fait le total des points ?
Oui, alors on a 30 points en tout pour Christophe et 5 pour Christelle. Ça va être compliqué de revenir. Mais...
Allez, le mot mystère pour terminer, Christelle. C'est vous qui allez démarrer. Vous avez 45 secondes pour faire deviner le mot que vous avez sous les yeux à Christophe. Et c'est parti.
Alors, c'est le premier moyen de télécommunication sur longue distance. C'est inventé par Claude Chappe. On communiquait par Morse sur le réseau.
C'est le télégraphe.
Oui, bravo. Christophe, bravo, hein.
Merci.
On ne vous la fait pas, vous. Hein.
Non, clairement.
Vive d'esprit et des bonnes réponses à la clé. C'était le télégraphe, effectivement. Les premiers télégraphes optiques avant d'être électriques, puis sans fil,
évidemment, avec la radio.
Allez, c'est à vous maintenant, Christophe, de permettre à notre amie Christelle de peut-être marquer 10 points. Pour terminer, vous avez 45 secondes, c'est parti.
Alors, c'est tout simplement le mot qu'on utilise pour la grossesse d'un animal.
Gestation.
Et voilà. Bonne réponse de Christelle. La gestation qui peut être très courte chez certains animaux.
Oui, 16 jours chez le hamster, précisément. Contre 273 jours chez la femme et entre 600 et 660 jours chez l'éléphante. C'est plus long là. Hein.
Et c'est le record, je crois.
Je crois, oui.
Ça doit être quasiment la même chose avec la baleine, mais c'est l'éléphant, je crois, qui bat tous les records.
Je ne connais pas la durée de la baleine.
Alors, on fait le total des points, malheureusement. Je crois que ce n'est pas suffisant pour Christelle.
Hein. Non, malheureusement, qui a donc 15 points et 40 pour Christophe. Bravo, c'est un joli score. Hein. On n'a pas ça souvent.
C'est vrai. Christophe, vous
allez remporter donc le jeu. Bravo.
Et vous remportez le Grand Atlas de l'astronomie.
Mais oui, préfacé par Hubert Reeves aux éditions Atlas. Et il est sorti la semaine dernière et il vous permettra de voyager dans l'univers. Il est magnifique.
Et vous ferez le tour du système solaire à la rencontre peut-être de Titan.
De Titan, exactement.
Christelle, merci d'avoir participé en tout cas à notre jeu.
De rien. Félicitations à Christophe.
Et je vous souhaite une excellente journée. J'invite les auditeurs à faire comme vous, à s'inscrire sur franceinter.fr pour nous rejoindre très prochainement. À bientôt à tous les deux. Au revoir.
À bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir.
Et dans quelques minutes, quelques affaires sensibles avec vous, Fabrice Drouel. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Au programme, aujourd'hui lundi.
C'est jeudi 13 mai 1993, prise d'otage à l'école maternelle de Neuilly. On en parlera avec Jean-Pierre Abou, qui est le seul journaliste qui a pu entrer dans la salle de classe où étaient retenus les enfants. Ils étaient 21 au départ.
Votre invité pour en parler donc.
Jean-Pierre Abou.
Ah, Jean-Pierre Abou, pardon. Oui, c'est lundi, c'est normal, je me réveille, il faut reprendre tranquillement la semaine.
Grand reporter à TF1 à l'époque.
À tout à l'heure, Fabrice Drouel.